Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
9 mois et un jour après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février 2022, la mobilisation du peuple ukrainien continue de contrarier les rêves impériaux du Kremlin, alors que Volodymyr Zelensky dénonce depuis plusieurs mois des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dans son pays. Le Parlement européen a voté ce mercredi 23 novembre un texte qualifiant la Russie d'État promoteur du terrorisme. Est-ce pour autant un tournant pour une Europe occidentale qui a longtemps rechigné à reconnaître le danger que représentait Vladimir Poutine? Bonjour Constantin Sigoff.
Bonjour.
Vous êtes ukrainien, philosophe, directeur du Centre européen à l'université de Kiev, ville où vous êtes resté après le début du conflit avec votre fils pour résister. Vous publiez « Quand l'Ukraine se lève, la naissance d'une nouvelle Europe » aux éditions Talent. Vous avez été l'ami de Paul Ricoeur, vous êtes un disciple de la philosophe Hannah Arendt, vous revenez longuement notamment sur une notion arendtienne, le trésor caché de la résistance dans ce dernier livre, et j'ajoute enfin que vous êtes à Paris dans le cadre d'un festival Un week-end à l'Est. Un festival qui est organisé à l'Espace Cardin au Théâtre de la Ville et on pourra notamment vous y entendre le dimanche prochain évoquer la situation en Ukraine. Cette situation qui, à vrai dire, n'était pas complètement prévue, la supériorité finalement de l'homme orange sur l'homme rouge. Qui est cet homme orange? Expliquez-nous, Constantin Sigoff.
Ça a commencé avec la Révolution orange en 2004. C'était la couleur qui était sur nos drapeaux pour descendre au centre de la ville, justement, déjà sur la place de Maïdan. Et donc, c'était un moment clé où la société ukrainienne a refusé les élections falsifiées et réclamé la vérité sur le vote en descendant par millions dans les rues. D'ailleurs, pas seulement à Kiev, mais aussi dans d'autres villes en Ukraine, nous avons gagné. Nous avons chassé à l'époque le candidat Yanukovych et donc le président Yushchenko, d'ailleurs en passant par notre université où j'enseigne, salué par nos étudiants. C'était la première d'ailleurs institution d'État qui a déclaré la grève. Donc nos étudiants étaient en couleur orange pour aller de l'université à la place. Et depuis presque 20 ans, n'est-ce pas, nous poursuivons cet contrôle par la société civile des princes qui nous gouvernent. Et je crois que la révolution de la dignité en 2013-14, encore plus fortement à travers tout le pays, justement déterminait à la fois notre attachement à l'Union européenne, à l'Europe au sens le plus large et le plus profond du terme, c'est-à-dire à la défense de la liberté, de la dignité et de notre cheminement pour aller au-delà d'une nostalgie complètement falsifiée de l'époque soviétique.
Il y a encore des Ukrainiens qui sont nostalgiques de cette période.
Écoutez, je pense que c'est vraiment une minorité qui, d'un certain âge, qui peut-être a une idée, encore une fois, déjà trop marquée par la propagande de la télévision russe, là où cette télévision est peut-être un peu plus puissante, en particulier dans les zones occupées, dans les zones de Donbass. Et notre pays est en train de vivre depuis 8 ans, entre les zones occupées et des zones libres, comme la France à l'époque. Donc c'est très important aussi de penser à la fois la libération des zones occupées, y compris la Crimée, et en même temps, justement, l'installation de nouveau des chaînes de radio, des journaux libres, de notre capacité de dire la vérité. Ce sera d'ailleurs le sujet de notre conversation au Théâtre de la Ville dimanche.
Dans le cadre donc de ce festival Un week-end à l'Est, Constantin Sigoff, est-ce que l'on peut dire aujourd'hui finalement que les Ukrainiens majoritairement se sentent européens et que ce conflit subi par l'Ukraine est un conflit qui signe définitivement votre appartenance à l'Europe?
Oui, je dirais même plus que ça, la société ukrainienne défend pas seulement l'Europe d'aujourd'hui, mais je dirais le fond, les fondamentaux, les choses essentielles, un petit peu oubliées peut-être dans les pays en Occident. Et je crois qu'une des marques de cette résistance, c'est la solidarité des trois générations. La nôtre, donc, des mes étudiants, anciens étudiants qui sont devenus professeurs et qui participent d'ailleurs dans le festival en week-end à l'Est, et donc de leurs enfants, de mes petits-enfants, nous voyons très clairement que la liberté pour tous les trois générations, la joie, l'amour, pour tout dire, on est vraiment face à ce désastre, aux épreuves, on sent encore plus fortement, pas seulement au niveau personnel, mais je dirais au niveau social, cette émotion très forte, mais l'affection.
Il faut quand même que je vous demande, si, une question un peu personnelle, comment ça se fait que vous parliez aussi bien français? Je sais que votre fils Valentin, qu'on a beaucoup entendu parce qu'il a participé à la révolution du Maïdan, a été fixeur pour de nombreux journalistes étrangers. Il parle aussi parfaitement français. Ça vient d'où le français chez vous?
J'ai deux fils, Alexis et Roman. Effectivement, tous les deux ont beaucoup travaillé avec les journalistes français. Il se trouve que j'ai enseigné à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris entre 91 et 95. Et donc, notre fils Alexis était scolarisé à la rue Vaugirard à Paris. Depuis, il a soutenu sa thèse de doctorat à Lyon en philosophie sur la témoignage. Et donc, tous nos trois enfants, avec Maria, notre fille, sont francophones et francophiles.
Et donc, la littérature, la philosophie, puisque vous êtes philosophe, Constantin Sigoff, ce livre, par exemple, que vous publiez quand l'Ukraine se lève, c'est un livre de conversation avec Laure Mandeville, une journaliste française. Qu'est-ce que la France représente pour vous et quel rôle peut jouer la France dans ce conflit?
Écoutez, je crois qu'effectivement, la France peut et doit être notre allié très très forte, puisque vous êtes pays de la justice et de la liberté, des droits de l'homme. Je crois que c'est le moment de prendre très au sérieux des choses déclarées, mais pas dans l'abstraction, mais dans la pratique. C'est-à-dire, c'est vraiment l'identité tout à fait nécessaire, d'ailleurs, pour réunir encore plus votre société et la nôtre. C'est très important aussi que, par exemple, les valeurs déclarées depuis Alexis de Tocqueville, j'ai adressé une lettre ouverte à Alexis de Tocqueville dans mon ouvrage. Donc voilà, la capacité, encore une fois, de s'ouvrir encore plus, de réunir le peuple, comme on dit, et les élites, d'entamer un dialogue beaucoup plus profond, développé, franc. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui en Ukraine. C'est vraiment une nation qui est tournée complètement dans l'avenir et pas seulement dans le passé, comme ça existe malheureusement chez nos voisins, trop tournés de façon identitaire. Je crois que l'idée, effectivement, de comprendre que les valeurs appuyé, pensé par les gens comme Paul Ricoeur, Emmanuel Levinas, c'est-à-dire la solidarité en profondeur, l'idée que la justice commence par le geste, c'est injuste. Et nous sommes vraiment appelés à défendre cette justice à l'échelle du continent.
Il y a des Français, on va considérer que certains sont de bonne foi, qui estiment que si on continue à livrer des armes à l'Ukraine, on prolonge une guerre alors qu'il faudrait faire la paix. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces compatriotes, à mes compatriotes qui estiment que ces livraisons d'armes, elles prolongent la guerre, Constantin Sigoff?
Gentiment, je dirais c'est le contraire. Le chemin le plus court pour arrêter cette folie d'agression russe, c'est effectivement munir encore plus, renforcer les gens qui, dans chair et en os, si vous voulez, aujourd'hui, mes collègues de l'université, comme à l'époque Charles Péguy, n'est-ce pas, qui a donné sa vie pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, et ce sont les gens qui en train de nous défendre avec vous la nuit pendant il neige, le matin il se relève sans café et écoutez, il paye le prix le plus fort, exceptionnel, sans prix, n'est-ce pas, leur vie, leur liberté, leur avenir, leur capacité de vivre humainement. Alors être avec eux, c'est l'honneur pour moi-même, pour les civils ukrainienne et européenne. Et je pense que les Français peuvent être fiers qu'ils rattrapent en quelque sorte un certain retard. Dans Le Monde était publiée une tribune que l'Estonie a déjà donné plus de munitions et l'Angleterre donnait 17 fois plus que la France. Donc je crois que c'est le moment de rééquilibrer les choses un peu en Europe.
La période que nous vivons est une période particulièrement terrible pour les Ukrainiens parce que d'un côté, il y a des victoires, il y a la libération de Kherson, il y a la libération de Boutcha. Je lisais un article sur la situation à Boutcha cette nuit. Et de l'autre, vous rendez compte de ce qui a été perpétré là-bas et de la situation des populations qui restent, par exemple, à Kherson, sans électricité, sans eau courante.
Encore plus, toutes les villes libérées, y compris Kherson, les plus grandes, sont été minées par l'armée russe pour précisément mettre des pièges pour les civils, pour les enfants, pour les personnes âgées qui veulent rentrer dans leur maison. Et donc notre effort commun, c'est déminer l'espace des écoles, des hôpitaux, et je crois que c'est aussi notre effort en commun avec les Français d'éminer notre avenir. C'est vraiment nous libérer des dangers, à commencer par la station nucléaire, mais aussi au-delà, par tout l'espace, n'est-ce pas, quand nous sommes parfaitement conscients que les nuages de Tchernobyl ne s'arrêtent pas à la frontière de la France.
Mais alors, au moins maintenant, le monde... Là aussi, le monde de bonne foi sait à quoi s'en tenir sur Vladimir Poutine. C'est au moins un enseignement de cette guerre.
Oui, on est au clair. L'état terroriste du Kremlin est déclaré par tous les Européens. Donc, il y a une obligation de nommer chat en chat et d'agir en conséquence. Donc, il n'y a plus des illusions on peut faire les affaires comme auparavant. Au contraire, je crois que la bonne manière, c'est d'appliquer les 9e vague des sanctions, d'être beaucoup plus forte. Et c'est d'ailleurs la manière peut-être la plus pacifique. Arrêter la guerre, arrêter le financement de cette guerre et donc prendre au sérieux cette idée aussi pour les compagnies de votre beau pays qui continuent malgré tout encore le commerce et qui financent l'agresseur.
Mais en fait, pour vous, Constantin Sigov, vous l'avez plusieurs fois rappelé, il n'y a pas eu dans les années 90 une véritable évaluation de ce qu'était devenu la Russie, l'homme soviétique, et c'est ce qu'il faut faire maintenant.
Oui, ce qui était aggravé justement en Russie, c'est les guerres en Tchétchénie, les guerres en Caucase. D'ailleurs, c'était un facteur qui a vraiment beaucoup éloigné la société ukrainienne de la société russe. Les Ukrainiens ne voulaient absolument pas participer dans les aventures militaires au Caucase. Et encore plus grave, la guerre russe en Géorgie, en Syrie. Donc on a vu qu'on a affaire à un État militariste. L'État qui veut, à travers la guerre, regagner les fantasmes néo-impériales. Et donc, je crois que l'idée, encore une fois, pour défendre notre manière de vivre libre et démocratique, aujourd'hui, nous voyons très bien qu'il faut beaucoup plus penser à la sécurité et à la sécurité ensemble, avec l'armée peut-être la plus forte aujourd'hui en Europe, l'armée ukrainienne, et nos alliés encore plus solidaires, j'espère.
Et alors, de l'autre côté, c'est la Russie ou c'est la société russe ou sont les dirigeants russes qui veulent cette guerre, qui l'alimentent ?
Évidemment, d'abord, ce sont les dirigeants. Ensuite, les médias asservis complètement depuis plus de 20 ans. Et puis, tout le système scolaire, l'enseignement, malheureusement, ils ont forcé les recteurs de presque toutes les universités donner leur signature pour l'agression. Donc, c'est tout à fait nuisible pour l'éducation, pour la manière de vivre et parler de notre avenir.
Mais vous êtes un intellectuel, vous êtes un philosophe, vous publiez « Quand l'Ukraine se lève » aux éditions Talents avec Laure Mandeville. Vos pères, par exemple, les philosophes russes, est-ce que vous discutez avec eux? Est-ce que vous les entendez?
Le meilleur philosophe russe, Anatoly Akhoutin, suivait la révolution de la dignité, la révolution du Maïdan 2014 par la télévision à partir de Moscou. Il avait 70 ans et vu encore une fois, la réaction virulente, mensongère dans les médias russes. Il s'est déplacé, il habite depuis 8 ans à Kiev. Il publie des choses remarquables aussi sur sa page Facebook, des livres, et en particulier, j'ai eu l'honneur de publier son ouvrage sur le Forum européen comme le modèle à venir, inclusif d'ailleurs pour tout notre continent.
Bon, mais les autres intellectuels russes, alors ceux qui sont restés en Russie et puis la diaspora?
Écoutez, ils sont en difficulté grave. Malheureusement, ils sont très fragmentés, atomisés, n'est-ce pas? Hannah Arendt disait que le propre du système totalitaire, c'est atomiser jusqu'au bout la société. Donc, il est difficile, par exemple, de voir quelque chose comme Pen Club russe, ça n'existe plus. Alors que, justement, notre Pen Club ukrainien développe depuis des années une collaboration exceptionnelle, remarquable, avec la France, Angleterre et d'autres grands pays de la culture libre et démocratique.
La guerre n'est malheureusement pas terminée, mais les Ukrainiens songent déjà à la reconstruction, à la paix. Vous l'imaginez comment ?
Écoutez, bien sûr, même pendant les jours maintenant des coupures d'électricité, d'Internet, on travaille énormément pour justement renforcer malgré tout l'éducation, l'enseignement, publication des livres. Je dirige régulièrement nos réunions de notre maison d'édition pour publier et diffuser les meilleurs auteurs de l'Europe. On continue de traduire aussi à partir du français, d'anglais, d'italien, d'autres langues, pour malgré tout, encore une fois, pas seulement barricader nos fenêtres avec des livres, mais aussi remplir les bibliothèques qui ont été détruites à Kherson et dans d'autres villes à l'Est.
Et peut-être, là aussi, faire rayonner la culture ukrainienne comme vous le faites pendant ce festival Un week-end à l'Est.
Oui, c'est absolument nécessaire de comprendre justement la richesse de cette culture en lettres, en musique, en pensée, en art, y voir pas seulement côté noir-blanc, mais voir en couleur la richesse de la culture ukrainienne aujourd'hui à Paris.
Bon, j'espère qu'on pourra bientôt le faire à Odessa, puisque le thème de ce festival Un week-end à l'Est et Odessa. Merci.
Bienvenue à Odessa et à Kiev et dans les plus grandes villes, opéras, théâtres et universités. J'espère qu'on va se retrouver très vite.
Merci beaucoup Constantin Sigov d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que votre livre « Quand l'Ukraine se lève » coécrit avec Laure Mandeville, « La naissance d'une nouvelle Europe » est publié chez Talent Édition. Dans quelques instants, nous serons en compagnie d'un journaliste écrivain qui a lui aussi un regard sur l'Ukraine, Jonathan Little.